First, everyone understands.
Tout le monde doit savoir que je n'ai rien à voir dans le meurtre de Nicole.
Murder. I loved her. Always.
Je l'aimais, je l'aimerai toujours.
If we had a problem,
si nous avions des problèmes, c'est parce que je l'aimais trop.
Bonsoir, un double crime atroce, une course-poursuite digne d'un film d'action, le procès du siècle, un verdict suivi par 100 millions de téléspectateurs. Rien n'est normal dans l'affaire O.J. Simpson, tout est démesuré, extravagant et spectaculaire. À l'été 1994, cette ancienne star du football américain, l'une des personnalités les plus populaires aux USA, acteur et invité permanent des shows télé, est soupçonnée du meurtre de son ex-femme et d'un employé de restaurant. Tout semble alors accuser O.J. Simpson, tant les indices recueillis sur la scène de crime, les témoignages convergent contre lui. L'enquête se focalise sur cette célébrité. Impossible alors d'imaginer que quelqu'un d'autre puisse être l'auteur de cette tragédie. Va alors commencer un feuilleton judiciaire qui va durer 18 mois et au cours duquel l'accusé va jouer son destin. C'est cette histoire hors norme que nous allons explorer ce soir avec nos invités et essayer de savoir pourquoi, malgré les enquêtes et contre-enquêtes, la vérité n'a pas jailli dans cette affaire. Les doutes sont toujours là, mais plus de 25 ans après les faits, la justice américaine ne peut toujours pas mettre un nom sur l'homme qui a tué Nicole Brown et Ron Goldman.
20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Ce soir dans l'heure du crime, l'affaire O.J. Simpson, été 1994, cette célébrité du football américain et des plateaux télé va bientôt apparaître dans la rubrique judiciaire après une longue découverte morbide dans un quartier chic et tranquille de Los Angeles. Ce dimanche 12 juin 1994, aux alentours de 22h15, Denise Pilnack, qui fait son jogging dans les rues propres et silencieuses du quartier de Brentwood, perçoit les aboiements répétés d'un chien. Derrière une clôture, une villa sur Bundy Drive. Elle n'est pas la seule à entendre cet animal qui a attiré l'attention de plusieurs voisins. Trois quarts d'heure plus tard, un chien errant est aperçu dans cette même avenue. C'est un Akita, un animal de race japonaise. Il semble affolé. Ses pattes sont maculées de sang. Un couple de résidents, Sukru Bozlepe et Bettina Rasmussen, le prend en charge. Le chien veut sortir comme s'il voulait retrouver son maître. On le tient en laisse, il fait 200 mètres à peine, puis marque l'arrêt devant le 875 South Bundy Drive. Le couple passe une tête au-dessus de la clôture. La maison n'est pas éclairée, mais dans l'allée, on distingue clairement une immense flaque de sang. Une rivière de sang, dira le couple. Le 911, le service d'urgence est alerté. Les premiers policiers sur les lieux découvrent le corps d'une femme, poignardée plusieurs fois à la tête et au cou. La gorge a été tranchée alors que la victime, semble-t-il, était déjà morte. Un homme gît un peu plus loin, près d'un arbre, lacéré de coups de couteau, à la poitrine et au cou. Les victimes sont Nicole Brown, 35 ans, et Ron Goldman, 25 ans. Ron est serveur dans un restaurant proche, le Mezzaluna. Il avait ce soir-là rapporté une paire de lunettes oubliées par cette cliente, une habituée, après le dîner. Nicole Brown est loin d'être n'importe qui. C'est l'ex-épouse de la star du foot et de la télé, O.J. Simpson, 46 ans. Le couple a deux enfants, Sidney et Justin, et a divorcé deux ans plus tôt. Les anciens époux qui habitent à un kilomètre l'un de l'autre se sont vus dans la journée. Ils étaient allés récupérer ensemble leur fille Sidney à son cours de danse. Nicole Brown, qui a la garde des enfants, a dîné ensuite de son côté au Mezzaluna. Son ex-mari a dîné, lui, avec un ami dans un autre établissement. La police apprend que O.J. a pris un vol le soir même pour Chicago, où il doit participer à un tournoi promotionnel de golf. Il est joint à son hôtel, il est sous le choc, mais ne demande à aucun moment de quoi est morte Nicole. Détail qui met aussitôt la puce à l'oreille des policiers. O.J. Simpson rentre immédiatement à Los Angeles. Avant même de remettre un pied dans le quartier de Brentwood, il fait déjà figure de suspect. Son passif familial violent avec Nicole ne prêche pas en sa faveur. Lundi 13 juin 1994, lendemain du double crime, O.J. Simpson a à peine poussé la porte de son domicile au 360 Rockingham Avenue qu'il est aussitôt menotté par un policier. Son avocat, Howard Weitzman, obtient aussitôt qu'on lui ôte ses bracelets. Simpson est embarqué dans une voiture direction le commissariat central de Los Angeles Downtown. Il doit être entendu en qualité de témoin. O.J. Simpson dément toute implication dans le double homicide. La veille au soir, il a embarqué à 12:15 pour Chicago. Il avait réservé ce vol depuis 5 jours. Auparavant, un chauffeur de limousine était venu le chercher pour l'emmener à l'aéroport à 22h25. Il n'avait trouvé personne à la maison. À 22h40, il avait sonné, pas de réponse. Jusqu'à ce que, enfin, O.J. se manifeste. Sur le trajet, le chauffeur avait noté que l'ex-footballeur transpirait anormalement et ne voulait pas se séparer d'un sac à dos. Les 4 policiers chargés des investigations font le tour de la scène de crime. Un gant ensanglanté, main gauche, est découvert près du corps du jeune serveur de restaurant. L'inspecteur Mark Furman trouve le deuxième gant, également ensanglanté, dans la propriété d'O.J. Simpson. Le Ford Bronco de l'ex-footballeur est lui aussi maculé de sang sur une portière, suffisant pour mettre en accusation le témoin. 5 jours après le double crime, vendredi 17 juin à 8h30, les enquêteurs téléphonent à Robert Shapiro, pointure du barreau et nouvel avocat d'O.J., pour l'informer que celui-ci doit se présenter au commissariat. Le rendez-vous est fixé à 11h du matin. Mais Simpson ne donne pas suite. Les policiers ne le trouvent ni chez lui, ni dans la villa discrète de San Fernando, mise à disposition par ses avocats. Le témoin numéro 1 est aussitôt visé par un mandat d'arrêt. À 17h, le juriste Robert Kardashian lit une lettre que lui a transmise son ami O.J. « J'ai eu une belle vie, de bons amis. Souvenez-vous du vrai O.J. et pas de cette personne perdue. » Un mot qui a tout d'un testament. Une heure plus tard, Simpson est repéré dans une voiture sur l'autoroute. Il est assis à l'arrière. Le véhicule est conduit par un ami, Al Collings. O.J. tient une arme qu'il pointe parfois sur le chauffeur ou qu'il pose sur sa tempe. La course-poursuite, filmée par une nuée d'hélicoptères, retransmise en direct par toutes les chaînes de télé, dure 2 heures. O.J. Simpson rentre enfin chez lui. Il va rester prostré pendant 45 minutes dans la voiture à 21h37. Il franchit la porte du commissariat central, d'où il ne ressortira pas. Pas de juge d'instruction aux États-Unis, c'est directement au tribunal que tout va se jouer et que tout va être mis sur la table. Procès qui s'annonce d'ores et déjà comme le procès du siècle et qui, de toute évidence, va durer des mois. Le 22 juillet, Orenthal James Simpson, le nom complet d'O.J. Simpson, comparaît devant la Cour supérieure de justice de Californie. Il plaide non coupable en précisant non coupable à 100%. Commence alors la constitution du grand jury. Le procès proprement dit s'ouvre, lui, le 24 janvier 1995. Si O.J. Simpson est reconnu coupable des 2 homicides, il peut être condamné à la peine de mort. Les procureurs Marcia Clark et Christopher Darden ont été choisis pour conduire l'accusation. Accusation qui se place clairement sur le terrain de la vengeance d'un homme jaloux, obnubilé par un divorce qu'il ne voulait pas. Il a tué par jalousie. Il a tué parce qu'il ne pouvait plus la posséder, dit l'un des procureurs. L'enquête fait apparaître que Nicole Brown avait fait l'objet de fréquentes violences domestiques. Le pré-contrat de mariage prévoyait ainsi qu'elle ne travaille pas. O.J. lui avait cassé un bras pendant une bagarre. Pour éviter qu'il n'aille en prison, l'épouse avait invoqué une chute à vélo. Le 3 février, Denise Brown, belle-sœur de Nicole, témoigne en larmes. Elle décrit une femme battue, vivant sous la menace permanente de O.J. 62 incidents violents sont ainsi répertorié dans la vie du couple, 8 avaient fait l'objet de signalements auprès de la police. L'emploi du temps de O.J. Simpson le soir du crime est méticuleusement décortiqué. Il apparaît que les meurtres ont été perpétrés entre 22h et 22h30. Alan Park, le chauffeur de la limousine appelé pour emmener O.J. à l'aéroport, indique que personne ne répondait à l'interphone à 22h40. 5 minutes plus tard, le chauffeur a aperçu une silhouette approcher de la porte d'entrée côté sud, à l'endroit justement où a été découvert un gant ensanglanté. Au bout de quelques minutes, la lumière s'est enfin allumée dans la maison et O.J. a répondu à ses appels. Alan Park, interrogé par les avocats de l'accusé, ne peut pas certifier que l'ombre fugitive qu'il a vue était bien O.J. Simpson. Les avocats ne croient pas à cet emploi du temps. Ils indiquent qu'à 21h40, O.J. Simpson était chez lui avec un ami, l'acteur Kato Kalin. Il n'aurait pas eu le temps de s'absenter pour aller tuer Nicole et le serveur, revenir chez lui et ouvrir la porte au chauffeur. Sa défense, c'est que O.J. Simpson est en mauvaise posture. Elle martèle l'argument selon lequel les procureurs veulent un coupable sur mesure, un homme qu'il faut condamner à tout prix. Des avocats qui cherchent la faille et vont finir par en trouver une dans ce dossier où l'accusation est pressante. Une simple faille qui ne va cesser de s'agrandir pour que O.J. Simpson puisse respirer à nouveau. En l'absence de témoins directs des meurtres, l'accusation se concentre sur les indices matériels et mise gros sur l'ADN. Pas moins de 108 prélèvements ont été effectués sur la scène de crime chez O.J. Simpson et dans sa voiture. 61 gouttes de sang retiennent particulièrement l'attention. Sur quelques-unes de ces gouttes collectées près des corps, l'ADN de O.J. est présent. Une chance sur 9,7 milliards de se tromper, affirment les experts. Même présence de l'ADN d'O.J. sur le chemin qui mène à son véhicule ainsi que sur une paire de chaussettes retrouvées dans la chambre du champion. Cette fois, cet ADN-là est mélangé à celui de Nicole. La défense fait feu de tout bois pour démontrer que ces tests ne sont pas fiables, que ces traces ADN ont été déposées par mégarde, par des enquêteurs peu précautionneux. Selon eux, la scène de crime a été contaminée. Les responsables scientifiques appelés à témoigner sous serment finissent par admettre que des erreurs ont été commises. Des experts, par exemple, qui n'ont pas changé de gants ou ont manipulé les flacons. Quant aux vannes qui transportaient les échantillons, ils n'étaient pas réfrigérés. La défense de O.J. Simpson marque des points avec l'ADN et va plus loin. Elle affirme que la scène de crime a été truquée. L'un des détectives, Mark Furman, aurait lui-même déposé le deuxième gant ensanglanté dans l'allée de la maison de O.J. Simpson dans le but d'établir un lien parfait avec le double meurtre. Interrogé sur ce point, le policier invoque le cinquième amendement qui lui permet de ne pas répondre, un silence qui sème le doute. Devant les caméras, O.J. Simpson enfile les fameux gants qui se révèlent trop étroits. Le détective Mark Furman n'en a pas fini avec les avocats. Il est accusé d'avoir voulu faire tomber O.J. par racisme. Le 29 août, les jurés sont ainsi invités à écouter un enregistrement audio dans lequel le policier tient des propos racistes. Il prononce le mot « nigger », nègre, à 41 reprises. Furman démentira tout racisme, mais son attitude et les faiblesses policières portent le plus rude des coups à l'accusation. Les procureurs savent alors que le procès est en train de leur échapper. Résultat, le 3 octobre 1994, O.J. Simpson est acquitté après un délibéré de moins de 4 heures. Certains jurés le croyaient coupable, mais ont été troublés par les erreurs policières. L'ancien champion est un homme libre. O.J. Simpson, homme libre, récupère ses enfants et quitte la Californie pour aller s'installer en Floride. Bien que la justice pénale l'a considéré comme non coupable du double meurtre, il est poursuivi au civil. 4 mois de procès en 1995 à Santa Monica. Le but des parties civiles, les familles de son ex-épouse et celle du serveur de restaurant, est de démontrer son implication. Simpson avait nié, par exemple, avoir possédé des chaussures italiennes dont les traces avaient été retrouvées sur la scène de crime. Les avocats produisent alors des photos où il les porte, image absente du premier procès. O.J. sera reconnu coupable au civil, considéré comme responsable des crimes. Il devra s'acquitter de la somme de 33,5 millions de dollars à verser au bénéfice des familles. O.J., que ses avocats ont souvent décrit comme fragile et perturbé, refait parler de lui pour le vol d'une voiture. En 2007, il est arrêté à Las Vegas. Il est cette fois accusé de vol à main armée, d'enlèvement et de séquestration dans une sombre histoire de revente de trophées sportifs. Au regard de la violence des faits, il écope de 33 ans de prison. Il sera libéré par anticipation le 1er octobre 2017. Plus de 25 ans après les meurtres de Nicole Brown et Ron Goldman, des enquêteurs privés font régulièrement émerger de nouvelles pistes ou des confidences inédites sur cette tragédie. Un dossier jugé mais qui n'est pas refermé, un cold case. Le meurtrier de l'ex-épouse et du serveur de restaurant, cet homme que la justice californienne avait cru pouvoir identifier sous les traits de O.J. Simpson, cet homme-là court toujours.